revenir en fait sur votre expérience lyonnaise, et vous avez quand même un recul assez important par rapport à la mise en place de Open Data. Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez justement que cette démarche Open Data profite à l'intérêt général, tel que vous l'avez abordé, ou vient nourrir en fait des intérêts plus particuliers? Et est-ce qu'on arrive à partir justement de... Avec le numérique, on arrive à adresser les individus quelque part, et donc comment on peut arriver à reconstituer, à rebâtir l'intérêt général à partir de ces outils?
Je pense qu'il y a, deux points dans votre question. La première, sur la question des effets positifs de l'open data pour une collectivité. Donc là, sur le cas des transports, en fait, finalement, l'effet voulu par la métropole de Lyon s'est avéré positif, puisqu'il voulait ne plus développer d'applications en propre, mais justement laisser faire le marché. Et ça a fonctionné, il y a un certain nombre d'applications, et donc il y a des meilleurs services aux voyageurs, même s'ils sont relativement peu utilisés qu'auparavant. Après, la question se pose sur d'autres secteurs d'activité, donc c'est très variable, hein, puisque les configurations d'acteurs, les intérêts, les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais de manière générale, dans les usages les plus positifs de l'open data, c'est surtout sur la meilleure coordination entre l'acteur public en interne, entre ces différentes directions, et une meilleure circulation de la donnée. Toute la donnée est disponible sur un même portail, et donc là où auparavant vous ne saviez pas que le service voisin produisait une donnée qui pouvait vous être utile, maintenant vous pouvez y avoir accès. C'est aussi très intéressant sur toute la coordination des acteurs qui vont intervenir sur un même projet urbain. Quand vous faites un aménagement de quartier, auparavant vous faisiez des extractions des systèmes d'information géographique. Tout le monde ne s'appuyait pas sur la même donnée. Résultat, au moment de la mise en œuvre, en fait, vous aviez des problèmes entre les plans qui n'étaient pas sur la même donnée de référence, des enjeux de coordination, etc. Aujourd'hui, ils disent tout le monde va chercher la même donnée au même endroit et on est sûr de parler le même langage. Et donc, ça facilite ces liens-là. Donc, c'est une forme de modernisation de l'administration. Après, sur l'aspect économique, c'est très difficile à mesurer puisque, par définition, on ne connaît pas les usages de l'open data. Il peut y avoir des usages qui... d'une donnée qui est utilisée dans un process industriel pour un exemple qui était souvent pris à Lyon, qui est celui de dire qu'on va mettre qu'un livreur, grâce à la donnée de fermeture de voirie, va mieux anticiper ses tournées de livraison. Et donc il va y avoir un gain pour son activité, mais qui est très difficile à mesurer. Et donc sur la même veine, on pourrait avoir plein de gains un petit peu comme ça. Après, sur votre deuxième question, intérêt général, intérêt individuel, ça dépend. Vous pouvez avoir un usage de données tout à fait pour un intérêt général, un intérêt collectif, etc. La question qui se pose plus, c'est sur les formes de gouvernementalité algorithmique qu'on a notamment au travers des applications de catégorie itinéraire qui sont plutôt effectivement centrées sur l'utilisateur et qui vont utiliser un certain nombre d'informations de l'utilisateur, en particulier sa localisation, mais peut-être aussi ses préférences en matière de déplacement pour orienter ses flux. Donc là, il peut y avoir un intérêt plutôt centré individuel, et est-ce que du coup, la somme de ces intérêts individuels fait l'intérêt général? Dans le cas de Waze, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut aussi être bénéfique pour la régulation d'un certain nombre d'activités.
Oui, d'abord, moi, je voulais vous remercier, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est passionnant, et c'est la première fois où j'entends des choses aussi construites et poussées sur le sujet. En même temps, j'ai pas dans un cycle de formation, donc merci beaucoup. Merci pour votre intervention, et justement, en vous écoutant, je vous trouve assez neutre, en fait. Vous exposez le sujet, mais vous ne donnez pas vraiment votre avis. Et je peux comprendre aussi, puisque vous n'êtes pas là non plus pour prendre position, mais vous êtes un chercheur français, dans une grande école prestigieuse française. Donc, la question est la suivante, c'est que, par exemple, sur le sujet des... Prenons un exemple très concret sur le sujet des zones, des futures zones à faible émission en France. On va avoir 14 agglomérations qui vont définir un périmètre et les types de voitures qui vont avoir le droit de circuler. Aujourd'hui, on ne va pas envoyer une information à chaque détenteur de permis de conduire dans la zone. Et donc on sait qu'on a plusieurs canaux d'information, dont celui des opérateurs comme type Waze, qui a même un peu écrasé les autres, hein, on dit ça comme ça. Côté État, on va récupérer ces informations, que vous connaissez bien, les arrêtés de circulation des collectivités. On va les normer, puisqu'on en a besoin, nous, de toute façon, pour traiter les PV, les procès-verbaux qui vont être adressés aux personnes qui seront infractionnistes. Donc, en fait, je dirais le lissage et... comme vous disiez, ce que je suis géographe de formation, en fait. Hein. Donc, la base de données, les informations, tout ça, on va les collecter et on va les donner à Waze juste pour qu'elle donne l'info au conducteur. Et donc, bon, excusez-moi, je suis un peu long, mais j'aurais voulu avoir votre avis en fait sur ce sujet, même très rapide ou même en survol, mais si vous avez, vous, l'impression que les collectivités et l'État ne contractualisent pas assez, et si elles devaient le faire, sur quel point ?
Dans l'exacte continuité, ce qu'on avait essayé de faire dans le cadre de l'ULM, c'était d'imposer une réglementation, notamment pour le trafic de camions international qui faisait du déport d'autoroutes vers les routes secondaires et qui passait, et on avait l'exemple de Niort, qui s'est retrouvé complètement congestionné par des camions de transit international. On avait essayé de trouver une solution qui n'était pas aboutie juridiquement, parce que c'est pas trois sénateurs qui mettent le point, mais pour pointer le débat, pour faire réfléchir et attirer l'attention, pour imposer une interdiction de déport pour ces applications-là. C'est là que la solution est beaucoup plus complexe. Donc, de votre expérience et de vos recherches, est-ce que... Est-ce qu'il est possible de leur imposer ça dans leur modèle à partir du moment où elles opèrent sur un territoire donné, donc avec des normalement des contraintes, mais dont elles s'exonèrent puisqu'elles disent oui, enfin, en fait, je ne suis pas de ce territoire-là, je n'ai que des utilisateurs sur ce territoire-là. D'abord ta question, il n'y a pas de souci.
Ce qui est compliqué en fait sur le cas de Waze par rapport aux autres plateformes, en fait, globalement ce qu'on observe c'est que les autres plateformes, il y a une régulation de plus en plus forte et qu'on arrive à peu près à encadrer leur activité. Sur le cas de Waze c'est plus compliqué puisque en fait, la plateforme en tant que telle ne fait rien d'illégal, elle dit s'adresser aux automobilistes. Si des routiers utilisent son GPS, elle n'est effectivement pas adaptée. Si elle développerait le même GPS pour les transports routiers, qui existe par ailleurs, il y aurait toutes ces informations d'interdiction et de report. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt de la responsabilité du chauffeur qui suit la mauvaise information, qui ne peut respecter pas non plus les panneaux de signalisation quand il s'engage sur des voies et qui provoque des congestions parce qu'il est bloqué, que la voie est trop petite pour lui passer. Et donc du coup, là-dessus, c'est l'argument de Waze, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est qu'il y a aussi donne une information, après charge à l'automobiliste de quand même respecter la circulation d'information, le code de circulation routière sur le territoire. Elle précise bien que du coup c'est utile, au départ c'était vraiment que les voitures individuelles, après ils se sont ouverts aux taxis, et donc là quand c'est les taxis ou les chauffeurs Uber, ils leur proposent par exemple les boîtes de taxi, mais donc ça ils le font parce qu'il y a cette spécificité qu'ils peuvent intégrer dans l'application. Oui. Et donc du coup sur le, en fait moi effectivement, est-ce que si on met on fait appel à ces acteurs privés, qu'on leur transmet de l'information, etc., est-ce que c'est une forme de, on va dire, simple de privatisation, et du coup l'acteur public dit j'ai perdu la main et je laisse faire ces acteurs de marché? On peut l'interpréter comme ça. Moi j'ai tendance à dire aussi que c'est en fait une manière justement pour l'acteur public de regagner la main, puisque ce qui est important c'est pas tant le médium par lequel vous allez transmettre l'information, mais que l'information soit transmise. Et aujourd'hui effectivement Waze, avec 13 millions d'automobilistes en France, c'était les premiers à intégrer justement ces enjeux de zones à faible émission et de restrictions de circulation, etc. Et donc ils informent les automobilistes, et donc c'est ce qu'on voit sur les tweets quand ils mettent à égal que de France Bleu Nord ou de l'Est Républicain, c'est ça, c'est un média comme un autre. Et ce qui est important, c'est que l'information qui soit transmise soit de l'information fiable et labellisée et officielle de la part de l'État. Donc pour moi, c'est une forme, pour reboucler avec mon cadre théorique que je vous présentais, de renforcement du pouvoir sémantique de l'État, de sa capacité à dire ce qui est, à représenter un phénomène et à faire agir en fonction de ces informations, ces automobilistes.
Je prends le droit de mon camarade qui est parti.
C'est pas des questions, c'est des témoignages.
Moi, je voulais savoir, vous connaissez le quartier de Toronto, qui s'appelle Quayside, par rapport aux questions que vous posez sur
la collaboration des acteurs privés et publics et le partage des données, qui est assez intéressant. Et, ouais, j'aimerais avoir votre regard là-dessus, sur l'évolution qui est assez rocambolesque de ce projet. Et après, j'avais un point qui était connexe. Je trouve ça très intéressant. Moi, je ne connaissais pas en détail la loi Elan. Et ça m'intéresserait parce que du coup, on porte un projet autour d'une compte mobilité. On voudrait arriver à une plateforme qui centre les données, donc arriver à avoir un acteur public avoir des données de mobilité et faire le lien entre les différents acteurs. Et je me posais la question aussi sur la loi, le mécanisme là, sur la loi Elan, qui in fine est l'opérateur de ça. Je crois qu'on s'est dit, il faut que les plateformes donnent leurs données. Qui va faire ce que vous évoquez, c'est-à-dire standardiser les données. Là, si je prends dans le cadre de mon compte formation, donc une compte normale, ça fait des gros. Dans ce cas-là, qui joue le rôle d'opérateur de standardisation, de récupération, de disposition de données.
Donc pour la loi Elan, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'opérateurs touristiques, de meublés touristiques. Donc c'est eux qui mettent à disposition leurs données avec les informations qui sont demandées et qui les transmettent aux collectivités. Et c'est surtout en partie pour les grosses collectivités qui ont besoin de cette information. En France, en fait, les effets négatifs d'Airbnb, c'est essentiellement à Paris et à Bordeaux, un petit peu à Lyon. Mais ensuite, c'est moins majeur sur l'enjeu du logement et du marché locatif. En tout cas, c'est là où il y a une plus forte mobilisation politique. Sur la question de Google Toronto, donc effectivement, c'est Sidewalk Labs, une filiale de Google qui a gagné un appel d'offres pour rédiger un master plan pour l'aménagement d'un quartier Toronto, qui suscite beaucoup de craintes, aussi beaucoup de fantasmes, parce qu'en fait, c'est Google, c'est la première fois qu'ils viennent aussi directement dans les questions urbaines et de l'aménagement urbain, et donc on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Et donc, on croit savoir, en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de discours. Dans les faits, en fait, c'est compliqué, c'est qu'il y a eu des controverses qui sont liées à la fois au projet Google, qui sont liées au fait que c'est Google et qu'il y a la question du traitement des données, du respect de la vie privée, et qui sont aussi liées à des controverses qu'on retrouve dans les projets d'aménagement assez classiques avec des aménageurs traditionnels et des promoteurs immobiliers traditionnels. Donc il y a eu le premier master plan qui avait été proposé et Google, enfin Sidewalk Labs, s'était pris la permission d'agrandir son périmètre. Les institutions publiques leur ont dit non, vous restez sur le périmètre initial. Et donc là, le vote final aura lieu en mars 2020. Donc pour l'instant, on ne sait même pas encore si finalement ça sera voté, ça sera réalisé. Oui, on pense que oui, mais on ne sait pas exactement non plus sous quelle modalité, sous quelle forme. Et sur la question la question des données qui sont collectées dans le cadre de ce quartier, c'est Google proposait ce qui s'appelle un Civic Data Trust, qui serait une espèce de tiers de confiance sur la centralisation des données publiques et privées du territoire, qui les remettrait à disposition à d'autres acteurs. Donc, il disait que ce n'est pas à eux de gérer ça. Ça a été refusé par les autorités publiques, qui disent non, nous on veut récupérer toutes les données. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt une gestion publique de ces données sur le territoire. Et après, sur le business model, en fait, aujourd'hui, c'est quand même très un business model classique d'aménagement urbain, c'est de la valorisation foncière. Ils achètent le foncier, ils font de l'aménagement, ils vont revendre plus cher. Aujourd'hui, c'est essentiellement ça, avec quelques services numériques associés. Mais en tout cas, c'est ça. Après, il y a des craintes, mais pour l'instant, peut-être qu'on peut avoir des suspicions, mais on ne peut pas en dire plus dans les temps.
Il y a
Disney
qui fait
mal
la valorisation.
Oui. À la DGD, j'aimerais rappeler historiquement, en fait, l'information sur le transport et les données de transport avait déjà été utilisée à une époque de la loi Fenn. Peut-être qu'il n'y avait pas du numérique et de l'informatique. J'aimerais rappeler qu'au départ, c'est une charte qui a notamment mis en place des cartes, avant même que l'État soit saisisse, qui a créé les bornes kilométriques. Et que là, peut-être qu'à cette époque-là, il y avait aussi cette crainte du privé, du privatisé, du public. N'empêche que peut-être parce que c'est un acteur français, on est moins. Pour cette petite introduction, il y a eu un partenariat public-privé qui s'est créé ensuite, où Michelin a justement partagé ses données avec l'État, et ensuite l'État a retrouvé une partie, justement, qui avait une question d'intérêt général. Donc l'innovation est. L'envie d'entreprendre, c'est important de ne pas tuer dans l'œuf, parce qu'on peut avoir plein de potentialités, même de bénéfices pour l'État.
Le fait que Michelin parle aussi de la question de la souveraineté sur les données, c'est
mais
ça dépend à quel moment.
Oui, bien sûr, mais le fait que
ce
soit Michelin, c'est crucial,
comme
tu as dit.
Michelin, c'est
une
société.
Mais c'est au-delà de France.
Non, à l'époque, c'était pas
du tout. Non, pas à l'époque, mais
maintenant, c'est à l'époque, c'est la France. Moi, j'avais toujours inspiré de ce qui s'est passé de l'histoire, et on voit qu'en fait, il y a plein de choses qui reviennent régulièrement. Pour en revenir aussi, est-ce qu'il n'y a pas une phobie liée au numérique et à la data sur ce sujet plus particulier et liée en fait à une culture numérique, à des compétences numériques qui ne sont peut-être pas suffisamment qui ne diffusent pas suffisamment dans la société française en particulier, mais pas que, au niveau des acteurs publics en particulier. C'est marrant parce que Waze, en fait, à la base, c'est de l'intelligence artificielle et c'est beaucoup de la mécanique des fluides où, en fait, ils vont limiter la congestion par du flux et en diffusant du flux à travers des routes. Et en France, on a quand même des longs. Enfin, en France, on a le plus de kilomètres, un million de kilomètres par rapport à toute l'Europe. Hein, ça. Et donc du coup il y a un vrai potentiel par rapport à la France pour justement limiter la congestion du fait de cette de mapping. Aux États-Unis c'est 6 millions de kilomètres, enfin voir la proportion. Et on n'a pas conscience en fait de ces un peu données techniques et puis aussi de ce qu'on peut en faire grâce aux outils et aux technologies numériques. De manière générale, je me demande si c'est pas relié justement à une culture numérique qui manquerait ou qui serait insuffisante. Et qui fait de la phobie, et donc du coup, par principe, on est contre la data. Enfin, un peu loin dans le raisonnement, mais...
Sur votre premier point, effectivement, en fait, sur la question rapport public-privé dans la gouvernance des territoires, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des acteurs privés qui participaient aux politiques publiques d'une manière ou d'une autre et à la gestion des populations, etc. Après, en fait, toute la question, c'est que quelle place de chacun et quelle, selon les rapports de force dans le temps, ça évolue, selon les territoires aussi, quelle est la place de chacun dans sa capacité à déterminer l'intérêt collectif. Et donc, du coup, aujourd'hui, peut-être qu'on a des formes du coup, de place plus grande de certains types d'acteurs privés, là où on a des espèces de va-et-vient, et donc on l'a dit avec Michelin, après acteurs publics, et donc maintenant peut-être un peu plus d'acteurs privés. Donc c'est pas contre les acteurs privés, hein. C'est plus essayer de comprendre justement pourquoi certains gagnent
Il y avait une fois qu'en fait tout était déjà développé, hein, quand l'État a récupéré, quand tout le territoire social était maillé, et qu'il y avait des cartes qui avaient été faites. Là, on n'est pas encore là au niveau des données de transport, notamment aux abus actuellement.
Et donc du coup, et sur le deuxième point,
la culture
oui.
Vous en pensez, après. Sur la Sciences Po, ça...
Non, mais c'est très important. Après, c'est très récent en fait. Enfin, pour Waze, ça a été créé en 2006, mais l'iPhone, c'est 2008, l'iPhone 3G. Sans iPhone, vous n'avez pas de Waze, vous n'avez pas de Uber, vous n'avez pas de VTC, vous n'avez pas de free floating. Globalement, c'est en l'espace de 10 ans, vous avez une évolution considérable dans le secteur du transport en particulier, où c'est très rapide, 10 ans en matière d'innovation. Et justement, pour le traitement de données, en fait, c'est assez intéressant si on fait la comparaison historique avec les questions de données routières et de circulation routière, donc les capteurs sur la chaussée, etc. En fait, l'ingénierie du trafic routier, ça a commencé avec des cursus universitaires aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale en gros en France et jusqu'à un usage quotidien opérationnel qui s'est vraiment développé sur les territoires dans les années 80 avec les centres de gestion du trafic, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, et donc on fait que perfectionner cette ingénierie du trafic routier. Donc le temps qu'il faut aussi pour acquérir des connaissances, de l'expertise pour la maîtrise de ces données est forcément assez long. Et là, on en est vraiment au balbutiement, en fait, sur la question de la gestion de ces nouveaux types de données. Donc oui, il y a un manque de compétences, peut-être de culture chez les acteurs publics, mais aussi chez les acteurs privés, de manière générale, mais par rapport à ça, qui n'est pas que français non plus.
Vous avez dit qu'en fait, le politique, il y avait une place importante du politique pour décider, justement, des orientations dans les data et les comment éclairer, justement, comment c'est possible, si justement la maturité... numérique n'est pas suffisant. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers certaines décisions prématurée ou
oui, on apprendra.
Insuffisamment éclairée.
Oui, mais après, il y a des effets d'apprentissage aussi. Mais après, il y a quand même des expertises qui se développent dans les territoires, dans les collectivités, chez les affaires privées de plus en plus grandes autour de ces questions. Moi, du coup, j'ai fait ma thèse sur l'open data à la métropole de Lyon. Donc, effectivement, c'est une grosse collectivité qui a une expertise, mais donc, ils ne le formulaient pas comme je l'ai formulé aujourd'hui, mais ils ont quand même, dès le début, un enjeu autour de cette question de la donnée, comment on la met à disposition, sous quelle licence, sous quel format. Et donc, du coup, c'était en partie anticipé. Et aujourd'hui, vous avez une montée en compétences qui se fait peu à peu. Donc oui, il va y avoir des heures.
Est-ce qu'il faut que ça soit sur l'ordinateur quantique, sachant qu'on va avoir un semaine de population qui sait ce que c'est. Enfin, voilà. Est-ce que quand c'est trop...
Non, pas forcément. Mais ça peut venir après. Et c'est aussi ce qui est bien avec la régulation publique, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de suivre la vitesse des innovations. Ce qui est normal aussi, par exemple, là, c'est sur la question du free floating, tout le monde disait, mais pourquoi les villes, elles ont vu arriver les vélos, un an après, sont arrivées les trottinettes, et elles n'avaient pas appris, elles n'ont rien fait. Mais c'est aussi que le temps de la régulation politique, le temps de la régulation des lois, etc., du débat, de savoir ce qu'on va en faire et comment, est forcément plus long, et je trouve que c'est bien. Et donc, il y a la régulation publique, on a vu aussi sur ces aspects-là la régulation par le marché, qui est quand même assez importante, où si bon, vous avez 15 opérateurs qui débarquent et qu'en fait, 3 mois après, il y en a déjà plus que 5, bah, c'est pas exactement le même problème. Donc est-ce qu'il faut réguler dès le départ ou attendre justement un peu de voir les effets et comment on peut réguler ?
Un dernier témoignage, et après je vous propose que...
Oui, bonsoir, je voulais revenir très rapidement sur le projet BeGood, qui est un projet sous financement européen, dont une extension est menée dans le conseil départemental du 45. Donc le but, c'est d'avoir une application destinée à rendre les routes du conseil départemental plus sûres. Et elle permet la mise en commun de différentes open data, de data de sociétés privées comme Waze et Coyote, mais aussi de différents acteurs institutionnels, de la gendarmerie, le SDIS devait participer également, tout ce qui est équipement, conseil départemental, j'en oublie. Donc le but, c'est d'avoir une petite application en temps réel qui va pouvoir expliquer différents flux, les routes dangereuses, les routes qui sont à éviter. Est-ce que vous pensez que ce genre de partenariat est juste une initiative un peu sans lendemain parce qu'elle est rendue possible par l'initiative européenne et les fonds qu'elle a pu débloquer, ou est-ce que pour vous c'est l'avenir du partage de l'open data avec une participation et un leadership un peu plus public avec une aide privée?
Je ne connais pas en détail le projet. Après, en fait, la question se pose, c'est du coup, qu'est-ce qu'on veut en faire de ces données et pourquoi et à quelle échelle est-ce pertinent. Et aujourd'hui, en fait, une grosse problématique qu'ont dans le secteur de la mobilité, c'est que du coup, les institutions sont par définition limitées à l'échelle de leur territoire et que les déplacements sont bien souvent dépassent ces échelles-là. Donc il y a des formes d'intégration justement par la donnée, ça permet de dépasser un peu l'échelle de son territoire et d'intégrer plus d'informations. Donc ça c'est un premier point qui peut être intéressant, notamment autour des gros bassins de vie, et donc ça peut jouer à ça. Et c'est là-dessus en fait où sont particulièrement forts des applications comme Waze, c'est que justement ils sont aterritoriales dans le sens où ils n'ont aucune frontière et qui peuvent du coup se jouer de tout ça. Donc je ne réponds pas vraiment à votre question, mais parce que du coup je pense que ça dépend vraiment quel est l'objectif, quel est le public qu'on veut adresser. Est-ce que du coup cette centralisation de données c'est pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure expertise pour la gestion opérationnelle de notre réseau routier au sein du territoire, ou est-ce qu'on veut développer des services aux citoyens au travers de ça, et du coup quels citoyens, est-ce notre territoire, les autres, etc. Il y a plusieurs questions qui se posent. Mais globalement, ce qu'on observe en mouvement sur pas mal de territoires, de se dire qu'il faut une place plus grande de l'acteur public, non, comme tiers de confiance ou comme mettre en place ce qu'ils appellent un service public de la donnée qui regroupait des données d'acteurs publics et privés, etc. Donc on va vers des formes un petit peu comme ça de croisement de données publiques et privées.